hombre y un mismo casero oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Vous voyez, c'est les deux compagnies au restaurage, en combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver à nouveau pour partager ces 57 minutes interactives sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La Banque centrale du Congo, BCC, vient de placer le 25 octobre 2016 sous tutelle administrative la mutuelle d'épargne et de crédit du Congo, Mekriko. Depuis plusieurs mois, Mekriko fait face à un problème de trésorerie qui se traduit par l'absence de liquidité dans ses agences de Kinshasa et de Goma. C'est une deuxième banque qui connaît pareille difficulté après Biak en l'espace de quelques mois. Que faut-il faire finalement pour protéger l'épargne du public congolais? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où c'était également le débat en direct. Alors, Julie Pézabongonda est au standard. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde de cette émission supervisée par Julien Liamoueli et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à Isaac Bampouri qui, de Bukavu, qui nous a envoyé ce message. Sauf erreur de ma part, la Banque centrale est la sentinelle des activités financières au pays. Elle doit toujours avoir un œil vigilant sur toutes les institutions financières et agir de manière appropriée, bien avant et non pas tardivement, dès qu'une situation suspecte se présente. Isaac, vous nous avez rejoint d'ailleurs en direct. Bonjour Isaac.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et quel est votre commentaire par rapport à cette situation?
Effectivement, à ma connaissance, c'est la Banque centrale qui est la sentinelle des activités financières de toutes les années du territoire national. Elle doit avoir l'air vigilant sur toutes les institutions financières fonctionnant au pays et agir de manière appropriée chaque fois qu'il y a une situation suspecte dans une banque ou dans une société. Mais curieusement, il s'avère que la Banque centrale réagit toujours en retard au moment où la situation devient irrécupérable, au moment où les gens ne peuvent plus récupérer d'argent. Je me rappelle qu'ici chez nous à Bukavu, il y a eu ce qu'on a appelé la consigne promotionnelle qui a fonctionné entre 2003 et 2005. Les gens laissaient de l'argent, on leur faisait caresser le rêve de toucher soit des doubles, soit des triples de leur argent dans quelques jours. Ceux qui ont mis les premiers ont touché, les autres ont touché, mais les gens qui étaient en prison étaient des rivaux, et par après, l'institution a disparu comme ça, alors que la Banque centrale connaissait tout cela, et malgré cela, il y a eu catastrophe, plusieurs personnes ont perdu leur argent. Après cela, il y a eu le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu le cas de la Diac, le cas récent de décret. Tout cela, sous l'œil invitant de la Banque centrale, les gens ont perdu d'argent comme ça. Alors, je me demande qu'est-ce qui justifie cela. S'il y a un expert de la Banque centrale, je voudrais qu'il nous éclaire, qu'il nous dise qu'est-ce qui justifie cela. Pourquoi les gens sont dans des catastrophes comme ça, alors que ce sont ceux qui devraient les sécuriser et ils ne font rien. Et pour terminer, je recommande à la Banque centrale de réduire les vigilances pour sauver l'argent des épargnants et ne pas continuer à laisser la situation s'empirer pour pouvoir intervenir.
Merci beaucoup Isaac. Pour vous, vous avez constaté que c'est l'épargnant qui est souvent victime par rapport à ce genre de situation. Ben alors, vous demandez à la Banque centrale, qui est l'autorité des régulations des transactions monétaires, de pouvoir redoubler des vigilances pour que finalement, après Mekriko, ce genre de situation ne puisse pas subvenir et ainsi surprendre la Banque centrale. Merci beaucoup. Alain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde.
Alors pour vous, cette situation des banqueroutes était prévisible. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, dans votre message?
Bon, ben, c'est déjà connu de tout le monde que la plupart des institutions financières sont gérées avec légèreté. nous le voyons. Moi, j'ai été étudiant à l'université pédagogique nationale, et il y a même des amis qui ont fait des travaux sur la maîtrise, parce que c'était par cette institution que nous payions à cette époque les Minerval et d'autres frais académiques. Nous sentions déjà qu'il y avait un problème de gestion, où lorsque l'ami a comparé les cash in flow et les cash out flow, il s'est rendu compte que les dépenses effectuées par la maîtrise étaient assez importantes et qui mettraient en mal son fonctionnement. Il y a aussi le problème d'octroi de crédit où c'est fait avec complaisance. Ce qui fait qu'à une certaine mesure, on s'est rendu compte, ou l'ami s'est rendu compte, que la maîtrise n'avait pas longue vie par le fait que sa gestion était non seulement opaque parce qu'il y avait des difficultés d'accéder à certaines informations, mais aussi il y avait une certaine légèreté où chaque agence avait une certaine autonomie en termes d'octroi des crédits, bien qu'il y avait des suivis. Mais malheureusement, certaines informations données déjà, alertaient déjà les observateurs que cette institution n'allait pas vivre longtemps. Et aujourd'hui, que la Banque centrale, qui est la gardienne, comme l'on dit, comme l'a dit le prédécesseur, et comme le dit aussi la Constitution, de ce genre d'institution, eh bien, moi, je me dis, la Banque centrale ne doit pas seulement se contenter de réagir, mais plutôt d'agir afin que nous arrivions à préserver ou à protéger l'épargne. Je voudrais quand même parler de l'épargne. L'épargne, c'est cette quantité d'argent ou de revenus que nous mettons de côté par souci de précaution. Mais si aujourd'hui les épargnants constatent que les institutions financières qui sont censées préserver ou protéger leurs épargnes ne sont pas assez crédibles, n'ont pas une bonne image, eh bien les gens vont avoir tendance à recourir à la thésaurisation, c'est-à-dire garder l'argent à la maison. Et là, on risquerait d'éloigner ou d'écarter un bon nombre de gens qui avaient le souci de mettre leur argent, leur épargne dans l'économie, dans la structure économique, pour que cela puisse permettre à ce qu'il y ait des investissements. Eh bien, ça risquerait aussi de déstabiliser l'économie. Voilà pourquoi la Banque centrale, dans sa mission régalienne, constitutionnelle d'ailleurs, doit plutôt avoir le réflexe d'anticipation et non de réaction. C'est-à-dire on devait déjà avoir le tableau de bord de toutes les institutions financières pour que nous sachions effectivement si la gestion elle est correcte ou elle est légale pour que nous arrivions à faire des anticipations sur des éventuelles crises. Mais malheureusement, la Banque centrale, elle aussi, de son côté, devient de plus en plus complaisante. Elle a tous les outils nécessaires pour faire en sorte que la gestion des institutions financières soit assez rigoureuse, mais malheureusement, on constate que cette banque centrale est aussi démissionnaire, malheureusement.
Alors, Alain, est-ce qu'on ne peut pas craindre le statut qu'aura actuellement la Maîtrise? C'est le même statut qu'a eu notamment la banque congolaise, la banque zaïroise de commerce extérieur à l'époque, et puis la banque de Kinshasa, et actuellement d'ailleurs avec la BIAC qui était sous gestion administrative de la banque centrale après avoir connu des difficultés dans leur trésorerie qui se traduisait donc par l'absence de liquidités. Alors le fait de mettre sous gestion administrative toutes ces banques qui connaissent des faillites et finalement pour passer par la liquidation, c'est un mécanisme, comme vous l'avez dit, qui vient peut-être en aval, au lieu plutôt de travailler en amont, mettre des structures de manière assez complète, protéger réellement l'épargnant, comme l'a souhaité Isaac tout à l'heure, en disant qu'il va falloir pour la Banque centrale de pouvoir redoubler un peu la vigilance. Et ça passera par quel préalable?
Bon, en fait, ce qui est vrai, quelles que soient les mesures que l'on pourrait prendre, dans ce genre d'institution, ce qui importe, le premier capital, c'est la crédibilité, c'est la confiance des épargnants. Aujourd'hui, nous devons savoir que la confiance a été entamée. Cette institution ne donne plus une bonne image d'elle. Et quelles que soient les mesures conservatoires que pourrait prendre la Banque centrale, eh bien, nous devons attendre à ce qu'il y ait des réactions. Parce que l'information, déjà, lorsqu'elle circule, ça dit aux épargnants que ce n'est pas une institution fiable. Et là, il y aura tendance à venir plus récupérer les épargnes qu'à verser ou à déposer. alors que cette institution n'a de moyens que par cette approche d'épargne. C'est-à-dire, lorsqu'on vient déposer, elle a la possibilité d'accorder des crédits, et comme ça, elle vit grâce aux intérêts. Mais s'il n'y a pas de dépôt, il n'y a que des retraits, eh bien, l'institution risquerait d'avoir une grande crise, plus que celle qu'elle a connue aujourd'hui. Ce que doit être fait au niveau de la Banque centrale, de mon point de vue, bien que je ne sois pas spécialiste en matière de questions bancaires, mais ce qui est vrai, la Banque centrale doit aussi éviter d'intervenir directement. C'est-à-dire, on doit arriver à solutionner le problème avant que cela soit rendu public. Au risque de donner l'impression que nos institutions ne sont pas fiables et qu'il n'y a que la Banque centrale qui vient intervenir en dernier ressort. Bien que le prêteuse en dernier ressort, mais doit éviter d'afficher ou de s'afficher publiquement lorsqu'il s'agit, par exemple, de redresser certaines imperfections des institutions financières au risque de renforcer encore la crédibilité des institutions et au finish encourager la thésaurisation.
Est-ce que vous avez bonne mémoire si, par le passé, il y a eu un cas de redressement des institutions financières qui ont connu des telles difficultés qui a marché à plein régime?
Bon, ben, si nous pouvons prendre le risque de citer le cas de la nouvelle banque de Kinshasa, et bien on s'est dit la nouvelle banque de Kinshasa n'existe plus. Donc moi je dis l'important, ce qui est important de mon point de vue aujourd'hui, c'est que la banque centrale, effectivement, c'est une mesure conservatoire qui ne vise que l'administration. Ce n'est pas que la banque centrale va prendre la responsabilité de gérer l'institution, parce que c'est une mutuelle, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est une mutuelle, c'est-à-dire que ce sont de sociétaires, ce sont les épargnants qui constituent le socle ou la base de l'institution. La banque centrale vient juste pour renforcer mettre de côté ou atténuer la faiblesse constatée par elle, et surtout en ce qui concerne la gestion de cette institution, mais en même temps protéger les épargnants. Donc c'est une mesure conservatoire, comme je l'ai dit, mais ce qui doit être fait aujourd'hui, on doit prendre des mesures courageuses, soit redresser l'institution par des mécanismes de bonne gouvernance, et faire en sorte que les informations circulent le plus vite possible pour permettre à ce que les épargnants ne se sentent pas menacés par la mégestion, et cela va faire en sorte qu'il y aura plus de dépôts. Plus il y a des dépôts, plus il y a la possibilité de corriger ces situations des banquiers.
Merci beaucoup Alain. On vous garde encore en ligne le temps de prendre d'abord Grasset, et qui a dit quelque chose dans son message, et puis on reviendra à vous pour vous faire un petit commentaire également. Alors Grasset, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour cher Robin.
Voilà, Grasset Mazongo, vous êtes à Kinshasa. Vous avez dit pour protéger l'épargne du public congolais, il y a trois propositions. À savoir, le gouvernement doit primordialement améliorer sa gestion au travers de ses technostructures, bon, dont la Banque Centrale du Congo. Il faut notamment l'applicabilité des règles de protection de l'épargne, car cette applicabilité est trop essentielle. Alors, quand vous parlez de la protection de l'épargne, qui passe par l'applicabilité des règles de protection, des règles lesquelles?
Là, je voulais faire allusion surtout aux règles spéciales de chaque établissement de crédit, ou soit de chaque banque. À part la Banque Centrale du Congo, parce que nous savons déjà que la Banque Centrale du Congo, c'est la directrice, la maîtresse, qui dirige toutes les autres petites banques. Mais le problème, c'est que cette banque, cette dernière, devrait peut-être laisser, comme l'a dit le précédent intervenant, devrait laisser un peu d'autonomie aux autres banques, aux autres petites banques, pour que celles-ci se régularisent de leur façon, vous voyez. C'est dans ce sens-là.
Oui, mais il y a déjà une loi qui existe et qui donne l'autorité à la Banque Centrale. Je crois que, encore vos propos, c'est comme s'il faut revenir, revoir un peu cette loi.
Ah oui, on peut revoir cette loi, bien sûr, parce qu'il y a aussi, vous savez, il y a des lois générales, il y a aussi des lois spéciales, et, parce qu'elles suivent les lois. Dépendit, le loi spéciale déroge aux lois générales. C'est pour de quoi? Les autres banques pouvaient avoir, à part l'organisation de la BCC comme leur directrice, avoir de l'autonomie régulatrice, c'est-à-dire avoir certaines règles qui les régulent. Parce qu'elles ne peuvent pas, à tout moment, être soumises par la BCC, alors que il y a aussi certaines actions qui peuvent. Elles n'ont confiance qu'à la BCC. Elles ne peuvent pas s'organiser sans regarder d'abord la BCC, vous voyez?
Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, vous relancez le débat sur l'autorité monétaire. Que faut-il faire pour réellement résoudre ce genre de problème qui commence à devenir un peu récurrent? Est-ce que, Alain, vous déplorez ce point de vue de voir, en fait, une autonomie de régulation des banques à part la BCC? Alain?
Bon, prenons déjà. Intégrant déjà le souci d'une bonne gouvernance, en principe toute institution financière, bancaire ou non bancaire, doit déjà avoir à l'idée le principe de précaution, c'est-à-dire faire en sorte que la gestion ne soit pas trop surchargée l'entreprise ou l'institution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit arriver à rationaliser la gestion. Mais ce qui est aussi vrai, la sensibilité de ces secteurs, aujourd'hui nous voyons il y a un problème de fluctuation des taux d'échange, c'est tout simplement parce que la monnaie c'est un actif sensible. Il ne voudrait pas que l'État puisse se détourner de le regard au risque d'occasionner d'autres déséquilibres qui mettraient plus en mal la structure économique. Aujourd'hui il s'agit d'une entité qui est microéconomique. Alors que s'il y a un dérèglement au niveau des institutions financières, si la Banque centrale n'a plus la maîtrise de ces institutions, eh bien le risque serait plus grand par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'estime de mon point de vue, qu'on devrait plutôt rendre plus autonome la Banque centrale, et en même temps, la Banque centrale devrait plus être plus regardant pour qu'elle arrive à anticiper. Mon souci aujourd'hui, c'est que la Banque centrale doit arriver à anticiper et non à subir et puis à réagir par la suite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais ont aujourd'hui une certaine crédibilité ou accordent encore de la crédibilité aux institutions financières, tout simplement parce qu'on sait que la Banque centrale, depuis quelques temps, a eu à régresser. Vous connaissez, vous avez l'idée sur la situation que nous avons connue vers les années 80, vers les années 90, où le Congolais avait une sorte de phobie des banques, n'arrivait plus à faire confiance aux banques. Il y a eu la thésaurisation. Et aujourd'hui, nous devons éviter que nous restions dans cette crise. Et maintenant, c'est la Banque centrale qui doit jouer sur la crédibilité du système bancaire. C'est elle qui est la gardienne, qui est censée préserver ou protéger en même temps les
gens. Donc, si je comprends bien, Alain, si je comprends bien, ça serait une mauvaise façon d'élever l'option d'avoir une autonomie particulière au niveau de banques, pas mis à part la BCC, c'est ça?
Effectivement, la Banque centrale doit rester maître du système bancaire. C'est d'ailleurs constitutionnel. La Constitution, si je ne m'abuse, peut-être que dans l'article 197, la Constitution reconnaît à la Banque centrale la mission régalienne de préserver, de veiller sur le fonctionnement du système bancaire, parce que nous savons que le système bancaire a une incidence, le fonctionnement du système bancaire a une forte incidence sur la structure économique nationale. Alors, si on s'attarde à rendre plus autonome dans le sens de prendre des décisions elles seules, ces institutions financières, eh bien, la Banque centrale n'aura plus même mis sur eux. Et la conséquence serait le dysfonctionnement total.
Merci beaucoup, Alain, d'avoir contribué dans cette émission à ce niveau, en évoquant bien entendu une des dispositions de la Constitution qui donne mission à la Banque centrale de veiller sur les systèmes bancaires. Et dans la mesure où on connaît les dysfonctionnements, cela a une incidence sur les systèmes économiques d'un pays. Alors, est-ce que M. Battier de Wally-Calé partage cet avis? Ingénieur Battier, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Papi, je salue tous les auteurs qui nous suivent dans le pays et partout dans le monde. Okay. Je voulais juste intervenir, monsieur le journaliste, que les problèmes qui viennent de se poser là, bon, ce n'est pas un nouveau ici au Congo et dans notre pays. Vous savez, les problèmes comptent toujours au niveau de notre gouvernement. Vous savez, la banque, c'est l'institution de l'État. C'est une institution qui devait vraiment avoir l'aide du gouvernement. Malheureusement, je ne sais pas si les autorités sont un peu distraites, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le nouveau cas. Nous avons vécu ça pendant les... Il y a une organisation, par exemple, date ici à Goma, ils ont pris l'argent déjà. Il y a Imara qui est venu, il a des problèmes. Il y a Gala, on ne peut même pas citer. Mais vous savez que mais le gouvernement ne prend même pas des leçons par rapport à toutes ces personnes-là.
Mais ingénieur Bâtier, de l'autre côté, il y a également aussi la responsabilité des banquiers et même, d'autant plus que, comme l'a dit Alain Bonnozot tout à l'heure, il n'arrive pas à bien gérer l'épargne. Ce qui fait qu'à un certain moment, on arrive à cette crise.
Mais comment le gouvernement peut accepter d'aventurer les gens qui ne sont pas compétents à venir escroquer sa population? Ça, c'est inacceptable, ça.
Mais le
gouvernement doit d'abord prendre en charge, évaluer et voir si réellement les personnes sont illicites, si la personne peut rendre un bon service à la population.
Mais il y a la responsabilité. La responsabilité revient à la Banque centrale de pouvoir faire ce travail parce que c'est une mission régalienne qu'on lui a donnée.
Oui,
la Constitution, vous lisez quand même la Constitution. Vous lisez la Constitution. Quand on dit que la mission, dans une des dispositions, la mission donnée à la Banque Centrale est de veiller sur les systèmes bancaires, qu'est-ce que cela vous inspire?
C'est ça. Maintenant, est-ce que les autorités, maintenant qui sont affectées à la banque, est-ce qu'ils font leur travail? C'est ça le problème. Parce que nous remarquons ici que c'est les pauvres populations qui est toujours, qui reçoit toujours des difficultés. C'est les pauvres populations qui subissent ça. Au moment où on est en train de dire que non, voilà, on doit moderniser les choses, on doit faire la bancarisation. Mais la population, maintenant, elle était découragée. Quand le gouvernement signe, ils acceptent qu'une organisation financière, une coopérative puisse fonctionner, au moment où cette coopérative n'a pas de possibilité, il n'a pas de garantie, mais c'est les pauvres peuples congolais qui en bénéficient, donc qui subissent ça. C'est déplorable.
Voilà, merci,
le gouvernement
Merci beaucoup, ingénieur Bâtier. Là, vous évoquez le problème de la garantie de l'épargne. C'est quand même important. On va voir ça avec dans la suite de cette émission, avec d'autres auditeurs qui vont intervenir. Il y a Elie Monedi depuis Mbandaka qui dit pour protéger l'épargne à RDC, hormis la restructuration du système bancaire, il faut d'abord stabiliser le climat politique car d'autres privés profitent de l'impasse politique afin d'escroquer les paisibles citoyens et en deuxième lieu la justice car celle-ci est le levier d'émergence d'une nation. Isaac dit la même chose et Patrick Binené, notre pays connaît depuis longtemps des sérieux problèmes économiques et cela influence nos banques. Notons aussi qu'il y a l'incompétence technique des banquiers qui ne font plus l'étude approfondie sur l'octroi et les dépôts des crédits. Donc, les problèmes de l'incompétence technique des banquiers posent de sérieux problèmes. Alors, Malonga, vous êtes dans le banc de Louville, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Malonga, on pourra émettre Omar.
Bonjour, je suis à l'écoute.
Alors, à Malonga, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup.
Est-ce que vous pensez, comme Patrick qui venait de le dire tout à l'heure, les compétences techniques des banquiers seraient également à la base de toute cette situation?
Oui, ça peut, d'une part, ça peut être à la base. Mais moi, je me demande souvent, BCC, en tout cas, c'est une institution qui est chargée de ce système. Mais, je me demande ici, est-ce que avant d'octroyer l'autorisation à une tierce personne qui vient solliciter d'ouvrir sa banque quelque part ici en République, est-ce qu'il contrôle, il analyse vraiment la compétence et le niveau et la qualité de cette personne? Parce que moi je vois seulement que si moi je suis ministre, si moi je suis gouverneur, si moi je suis quelqu'un de niveau et j'ai mes moyens, Je peux ouvrir seulement n'importe quoi. Même si je suis informé du système bancaire, même si je ne suis pas formé, j'ouvre. Et si j'aime fermer, je ferme sans tenir compte de clients qui m'ont parvenu. C'est ce que je me demande, est-ce que vraiment l'État congolais, je reviens encore à mes confrères, contrôle réellement avant d'octroyer l'autorisation de ça? Est-ce qu'il vérifie, il analyse la qualité de la personne ou bien du groupement qui fait à ce que cette banque soit en exécution? Puisque ici chez nous, vous êtes journaliste, vous êtes entre.
Oui, mais disons, Balonga, depuis un certain temps, il y a eu la loi, et puis Alain Bolodja l'a dit ici, il y a des dispositions constitutionnelles qui donnent cette mission à la Banque centrale, et qui les fait souvent en évaluant un peu les banques. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on est humain, il faut quand même le dire, quand il y a, Alain Bolodja venait de le dire, quand il y a une compétence technique du côté des banquiers, il y a des choses qu'on ne livre pas facilement, disons, au contrôleur, pour avoir toutes ces informations adéquates. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît parfois ces genres de dysfonctionnements. Hein, et on a l'impression que la banque se prend en aval plutôt qu'en amont.
Effectivement, je dis. C'est par là où nous demandons pourquoi l'État néglige cette secteur. C'est un secteur de nous, moi j'ai l'information. Vous savez l'histoire de Lambert, hein? Vous savez l'histoire de Lambert.
Mm-hmm.
Si M. Lambert si a activé ce système bancaire, parce que la population a dit que non, il a l'intérêt financier. Ah, si on débloque, on bloque quelque chose de là-bas.
Monsieur Balonga, donc je crois qu'on a compris, vous demandez à la Banque Centrale de renouveler un peu le contrôle comme vos prédécesseurs. Alors, Maître Omar, vous êtes avec nous à Kinshasa, bonjour. Alors tout à l'heure, je posais la question à Malonga en ce qui concerne la préoccupation de Patrick Binené qui nous a écrit, qui parlait un peu de l'incompétence technique des banquiers aujourd'hui. Je crois que c'est quand même un problème sérieux aussi qui a fait quand même une certaine responsabilité.
Vous avez totalement raison et j'écoute l'idée de l'auditeur dont vous avez été à Bijan hier. Vous savez, s'il faut interroger l'histoire, il est arrivé un moment où il n'y avait presque pas de banque au Congo. Et parce qu'il y avait une cause principale, le manque de crédit. Aujourd'hui, la cause est très indécente. Il y a des problèmes. Pourquoi toujours on a affaire à des banques qui ne font que des faillites? Moi, je pense, la première, c'est ce que l'ami a dit, c'est le manque d'autodéfus dans la gestion. Vous allez demander à tous les économistes et développeurs, ils vous diront, dans le domaine de gestion des banques, si on a affaire à des dirigeants qui n'ont pas un esprit de management sérieux, qui ne savent pas respecter les normes de la gestion d'une banque, ça va se tomber. Dans la première cause, à mon avis, j'ai assisté que beaucoup de banques puissent tomber, c'est la gestion irrationnelle, la gestion imprudente et la gestion qui manque de technicité. Il y a une autre cause, hier, c'est l'environnement politique dans lequel travaillent les banques aujourd'hui. Si vous interrogez les économistes, ils vous diront, à part l'aspect qui a la paix, mais il y a certains services, bancaires, services économiques qui viennent déranger les banques, et chaque fois que l'argent qui sort, c'est ce qui fait que ces gens-là n'arrivent pas à bien encaisser l'argent. Il y a autre chose hier. Avant d'ouvrir une banque, je pense qu'il y a une loi qui existe depuis 2000 qui régit les établissements de crédit ainsi que les banques. Et tu vois que c'est la Banque Centrale la gardienne de toutes les banques. Il faut au niveau économique qu'on fasse des études de marché. Et en économie, on parle de la règle des 4 P. P comme produit, P comme public, P comme place, P comme prix. Il y a déjà beaucoup de banques. Quand vous ouvrez une banque, quel produit voulez-vous présenter qui n'a jamais existé? Vous dépensez beaucoup d'argent. Et quand vous posez un produit qui existe déjà, personne ne vient vers vous. Et après quelques jours, vous avez fermé. C'est une chose. Quel est le public face auquel vous voulez investir? C'est aussi des questions techniques que les clients vont ouvrir une banque. Troisième chose, vers quel endroit? Vous ouvrez une banque à Matina, vous ouvrez une banque à Kinshasa, vous ouvrez une banque à Gombe. Chaque public a ses réalités et ses moyens. Autre chose, il y a un problème de prix que vous offrez vis-à-vis de vos clients. Je pense qu'à part l'aspect de la gestion irrationnelle et qui manque de technicité, à part l'aspect de l'environnement politique qui pollue les banques, il y a aussi un aspect de manque d'études préalables avant de venir aux banques. Et autre chose comme cogir, il y a un froid contrisant. La loi que j'ai citée tantôt, c'est que la Banque Centrale, la Banque Dernière, avant d'octroyer l'autorisation des affaires d'une banque, on doit faire des études pour voir. Non. La banque a trois missions principales. Les dépôts, le froid des crédits et l'épargne. On doit être en mesure de savoir que ce que vous ouvrez a vraiment un fonds initial très important. Et la loi oblige à ce qu'on puisse vous faire une réserve bien avant, même si vous allez fermer un jour, une réserve qu'on appelle la garantie bancaire. Est-ce que la Banque Centrale fait à cela? Je pense que si les études sont bien faites au préalable, on n'aurait pas des banques qui seront fermées. Mais la même loi dit, à part les contrôles en aval qui doivent être faits, les contrôles prioritaires avant de faire, il y a aussi un contrôle après. A priori, il faut voir est-ce que les banques qui fonctionnent respectent les normes prévues pour les banques. Je pense que pour la solution, il faudra qu'on puisse rationaliser la gestion des banques. Il ne faut pas confier la gestion à n'importe qui. décision de le faire, ils doivent gérer parce que la banque est une technique. Il faut aussi que ceux qui sont en train de gérer le commerce au pays puissent faciliter la tâche aux banques. Et des fois, il faut que la banque centrale, qui est la gardienne, puisse veiller à deux niveaux. Premièrement, avant qu'on ouvre une banque, tenir compte des conditions fixées par la loi de l'unité. Il veut qu'il y ait un fonds important, il veut aussi qu'il y ait une réserve de sommes qu'on garde. Et aussi, ceux qui ouvrent les banques doivent interroger les économistes. Il faut faire l'étude du marché, vérifier les quatre aspects que j'ai fait à l'étude tantôt. Je pense qu'en faisant des études, on pourra ne pas avoir des banques qui vont bien fonctionner et on pourrait éviter quelque chose que j'ai vu il y a très longtemps.
Voilà, merci beaucoup Omar, mais nous vous gardons un peu en ligne parce que vous venez de poser un problème très 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 important parmi les conditions. Il va falloir tenir compte de ces manques d'orthodoxie dans la gestion des banques. Vos prédécesseurs l'ont dit également. Vous avez ajouté un élément sur l'environnement politique, mais encore faut-il savoir que dans les dispositions constitutionnelles, il y a des services habilités à pouvoir en fait exiger à des banques qui les taxes ou encore autres droits dus à l'État, mais vous avez cité certains services qui n'en ont pas en qualité. Bon, ne notons pas, parce que ce n'est pas le débat. Alors, il y a le manque d'études au préalable et vous demandez à ce que par rapport à 4P, le produit public, place et prix, qu'on en tienne réellement compte pour arriver finalement à garantir l'épargne. C'est vrai, vous avez évoqué également la loi de 2002 qui demande à ce que au préalable, on puisse exiger aux banquiers un fonds important et aussi une réserve de sommes à garder pour, au fait, qui constituera donc une garantie de l'épargne. Merci beaucoup, Omar. Donc, nous vous gardons un peu en ligne pour d'autres questions. Et il y a ingénieur Valérie qui nous a rejoint à ce niveau du débat, qui est à Kindou. Ingénieur Valérie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les occupistes.
Est-ce que vous partagez l'avis? Oui, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Omar tout à l'heure qui évoquait le cas de la gestion irrationnelle des banques et puis l'environnement, les problèmes de manque d'études au préalable et puis aujourd'hui le fonctionnement des banques ne respecte pas la mission qui leur a été assignée?
Oui, tout à fait. Je vais même au-delà de Maître Omar, c'est-à-dire que je dois remercier et féliciter tout le monde qui est intervenu avant moi, chacun dans les cas qui les concernent. Sincèrement parlant, d'abord, je puis vous signaler que je suis un ancien de la Banque Congolaise du Commerce Extérieur, dont je suis d'ailleurs le président des ex-agences, parce qu'on y a fait allusion, donc j'en connais un peu quelque chose là-dessus. Je dois vous dire qu'effectivement, il y a des parts de responsabilité de part et d'autre. Il y a des responsabilités de part et d'autre. D'abord, les banques commerciales, tout comme les mutuelles de crédit et autres, elles évoluent, elles ont leur propre gestion, elles sont contrôlées par la Banque centrale. Entre-temps, toutes les affaires se font dans un climat qui est créé par l'État congolais. Comprenez qu'on ne peut pas faire un tel débat sans inclure et les banques elles-mêmes, et la Banque centrale, et l'État congolais. S'agissant des banques elles-mêmes, il y a un problème de gestion au départ, parce que depuis la liquidation de la MDK, BCA et la mienne, la BCTE, vous remarquerez qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces banques jusqu'à aujourd'hui. C'est le portefeuille, les crédits maintiens du portefeuille. Donc on retrouve toujours qu'au niveau de l'octroi des crédits, il y a tout un problème. Et là, je dois vous aider d'abord avec une petite histoire. Lorsque les Belges sont arrivés dans ce pays, ils nous ont trouvés avec divers services publics. La police, les renseignements, qui étaient à notre manière et ils n'ont fait que moderniser. Mais ils n'ont trouvé aucune banque. Et là, il nous dit que tout ce qui est banque est une culture importée. D'où il est très dangereux que nous puissions parler de banque tout en conservant nos propres cultures, c'est la ruine. C'est le cas auquel nous assistons pour le moment. Alors, au niveau des banques, je commence d'abord au niveau des banques commerciales elles-mêmes. Il y a un problème de la légèreté dans l'octroi des crédits. Ce sont peut-être les mêmes services qui sont habilités à envoyer des crédits, qui récupèrent peut-être de l'autre côté, d'où on ne choisit pas rationnellement à qui on doit prêter pour que demain on puisse récupérer des dividendes. D'ailleurs, lorsqu'une banque tombe en faillite après avoir envoyé des crédits, cela signifie qu'elle n'avait pas d'experts. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, n'oubliez pas que lorsque nous parlons de la banque, en théorie monétaire, bien entendu, je ne suis pas économiste, je suis un électromécanicien, mais pendant que j'étais à la banque, je m'intéressais à l'économie monétaire, il y a un rapport entre les fonds que les clients déposent à la banque et les fonds que la banque elle-même est obligée de garder. Ça s'appelle ça s'appelle le coefficient de l'utilité le coefficient de l'utilité du médiateur. Alors, lorsque les gens déposent, la banque doit quand même aussi prélever quelque chose qui doit rester et quelque chose qu'elle doit aller déposer au niveau de la banque centrale. Ça, c'est évident. Et même au niveau de l'engagement, la banque doit aussi avoir un rapport entre les engagements à court terme que la banque prend et les avoirs qu'elle peut facilement réaliser à court terme. Tout ça, ça s'appelle le coefficient de liquidité générale. Alors, maintenant, au niveau de la banque centrale, ce qu'on peut encore déplorer, c'est quoi? Comment, je prends l'exemple d'une banque comme la FIBank, elle est apparue il n'y a pas longtemps et doit disparaître. On peut se demander, est-ce qu'au niveau de l'agrément, il y a eu peut-être un peu, c'est pas moi de laisser aller ou bien comment? Parce que c'est pas quand même normal qu'aussitôt commencé, elle puisse fermer ses portes. Alors, la Banque Centrale, lorsque nous lisons la Constitution, spécialement à son article 176, qui traite des missions de la Banque Centrale, nous trouvons qu'au point 3 et 4, on dit ceci, la Banque Centrale a à ce titre pour mission, entre autres, point 3, point 2 d'abord, je parle de point 3 et 4, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Et puis, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire. C'est concernant les points 3 et 4 que nous pouvons retrouver la relation entre la Banque centrale et les banques commerciales. C'est quoi une politique monétaire d'abord? Une politique monétaire est un ensemble de mesures concertées qu'une autorité monétaire prend à l'égard de la masse monétaire et des actifs financiers. Tout cela dans l'esprit de réguler l'activité économique. Alors, parmi les instruments de la politique monétaire, nous pouvons avoir, par exemple, les problèmes du taux de l'escompte, les problèmes du taux d'intérêt, les taux d'intérêt bancaires, et aussi, donc il y a plusieurs paramètres qui entrent dans la politique monétaire. C'est à la Banque centrale de décider, par exemple, les taux d'intérêt. Et la Banque centrale a une direction qu'on appelle la direction de supervision des intermédiaires financiers. Cette direction est en permanente collaboration avec les banques commerciales afin de voir l'évolution. Ce qui fait que la Banque centrale a la possibilité de remarquer à temps que les indicateurs de gestion de telles banques commerciales sont déjà au rouge.
Ingénieur Valérie, en évoquant tout cela, oui. On a l'impression que le problème ne pouvait pas se poser. Mais à quel niveau le problème se pose? Parce que avec Mekeko, ce n'est pas le premier cas. Il y a eu des cas précédemment. Vous avez dit vous-même, vous fûtes un ancien de la Banque Zaïroise Congolaise des Commerces Extérieurs, BCCE, aujourd'hui. Alors donc, au regard de tous ces éléments que vous venez d'évoquer, j'entre dans le cadre de la politique monétaire. En principe, le problème ne devait pas se poser, et surtout avec la présence de la supervision de ces services, des supervisions d'intermédiaires dans les systèmes financiers. Alors, selon vous, qu'est-ce qui serait réellement à la base de tous ces manques de liquidité dans la trésorerie de ces différentes institutions financières?
Ok, merci, je vais vous répondre et puis proposer un conseil après. Le premier problème, comme je l'ai dit, c'est au niveau des banques commerciales elles-mêmes. Et nous ne parlons pas la face.
Tout à fait.
Parce que une banque, une entreprise qui a une autonomie de gestion n'était pas tombée en faillite sans pour autant que les gestionnaires n'en sachent quelque chose. Ça, c'est tout à fait évident. Je viens de montrer que les banques octroient les crédits de complaisance. C'est sur base de cela qu'elles arrivent à tomber en faillite. Ça, c'est de un. De deux, au niveau de la banque centrale, j'ai dit que je me demande si l'agrément de certaines banques ne se fait pas sans être rigoureux. Quand je vois le cas de la FIBank, qui doit disparaître quelques années après son existence. Troisièmement, j'ai bien dit qu'il y a une direction de la supervision des intermédiaires financiers qui est censée constater à temps que les indicateurs de gestion de telles banques tendent déjà vers le rouge, si bien qu'il y a lieu soit de la mettre sous gestion administrative et puis la relancer. Mais je dois vous dire encore une chose. Pourquoi la Banque centrale n'arrive pas à relancer les banques commerciales dont elle a déjà assuré la gestion depuis tout ce temps? Ça, c'est un problème fondamental. Moi, je filme que, d'abord, c'est un problème d'expérience et d'objectif. La Banque centrale a beaucoup d'hommes intelligents, c'est vrai, j'en connais quelques-uns, mais il faut vous dire que les objectifs de la Banque centrale ne sont pas les mêmes avec ceux de la banque, des banques commerciales. Ce qui fait que l'expérience des comités de gestion que la Banque centrale envoie Et aussi, quand ils arrivent, ils commencent à prendre sur le temps les réalités des banques commerciales.
Mmh.
J'aurais préféré que la banque centrale puisse au moins récapitaliser tous ceux qui ont déjà été dans différentes banques commerciales dans le cadre de comités de gestion au sein de la direction de supervision bancaire. Parce qu'il y en a, j'en connais seulement deux ou trois qui sont encore à la direction de supervision bancaire, les autres sont éparpillés par-ci par-là, alors qu'il y a eu prolifération des banques. Et je voudrais aussi que quand la Banque centrale engage ses licenciés en économie, qu'elle ait aussi l'habitude de les envoyer dans des banques commerciales pour être rodées. Quand on contrôle, c'est bien qu'on contrôle quelque chose dont on a une maîtrise profonde. Je vous ai parlé aussi du problème de la politique.
Merci beaucoup, Général Valérie, de nous avoir donné tous ces éléments. Alors, on va dire à vous, Maître Omar, c'est peut-être un problème d'objectif. Est-ce que vous partagez cet avis, Omar?
Tout à fait, JR, merci de m'avoir établi en liaison. Comme l'a dit l'ingénieur Valérie, l'objectif pour lequel un homme va vers un banquier, il me dit premièrement c'est pour la sécurité. Je veux que mon argent soit en sécurité. Il y a aussi l'intérêt, il y a aussi la confiance. Donc j'ai eu un problème de réjouir. Après la fermeture, la fête des théâtres, après les crépons, aujourd'hui les Congolais ont repris leur ancienne habitude de ne plus avoir confiance aux banques. Lorsqu'on a pris confiance aux banques, on tombe de ce qu'on appelle en économie la thésaurisation. Les gens vont reprendre la décision de garder l'argent à la maison. Lorsqu'il n'y a pas existence des banques dans une économie moderne, imaginez la suite de la déliquescence sur le plan économique. Donc on doit vraiment en tenir compte. Et puis, comme l'a dit l'ingénieur Valérie, il y a un problème de responsabilité. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, il ne faut pas s'attaquer aux faits, mais plutôt aux causes. À mon avis, et je partage entièrement les avis de M. Valérie pour dire que la première responsabilité est au compte du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, je vois la Banque centrale elle-même et les ministères de Sécurité et les ministères des Finances. On doit jouer vraiment le rôle des régulateurs. Lorsque le fait intervient dans le domaine économique, il n'est pas qu'entrepreneur, il est aussi régulateur. C'est-à-dire, il met en place des règles pour la bonne gestion économique d'un État et il veille à l'exécution et au suivi de ces règles. Ce qui n'est pas fait, à mon avis. Vraiment, on doit veiller, avant d'ouvrir une banque, tenir compte des conditions préalables, un fonds normal, une garantie normative, une gestion rationnelle. Si aussi on doit veiller au contrôle du fonctionnement des banques, je pense qu'on ne tomberait pas dans tel cas. Au niveau des gestionnaires des banques elles-mêmes, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait trois politiques. Premièrement, comme l'a désigné Valérie, la politique monétaire. Il faut être sûr qu'on a suffisamment de moyens pour tenir combler ses risques. Le domaine des banques n'est pas un domaine d'une marchandise ou encore d'une boutique alimentaire. C'est un domaine de moyens sérieux. Et deux, on doit avoir la politique organisationnelle. Ce n'est pas mauvais d'apprendre, ce n'est pas mauvais de conseiller des experts. Une banque n'est pas une boutique qu'on appelle chez nous à des effets de tableau. Une banque est un domaine économique très important. On doit tenir compte des dossiers décrits dans la gestion. Il y a des principes économiques qui existent dans la gestion, notamment la bonne gouvernance, la canalisation des dépenses et la bonne régularisation des dépenses. Et si on n'en tient pas compte hier, on tomberait sur le détail. Et enfin, on doit avoir la politique préventive. Monsieur Maroc qui vient de mourir en France disait, le rôle d'un banquier n'est pas de spéculer, mais d'analyser les risques et de savoir en prévenir. Un bon banquier doit tenir compte des réalités présentes. Une banque est une affaire économique et tout le temps les affaires peuvent toujours bouger. On doit toujours avoir des métiers avantageux pour savoir qu'un jour ou plus tard, on peut tomber en faillite et quelles mesures sont données. Mais les choses se résument hier par le respect de la loi, parce que nous sommes un état de droit.
Mm-hmm.
Il existe une loi bancaire qui est depuis 2002.
Depuis 2002, oui.
Qui est en fait de façon administrative. Si on se met à respecter ces lois qui sont derrière claires, je pense qu'au niveau des centres bancaires, des avocats conseils et des conseils juridiques, si on le respecte, et si le contrôle est fait de façon raisonnable, je crois que sur JR, on n'aura pas de
problème. On n'aura pas de problème. Merci. Merci beaucoup, Maître Omar, de cette contribution. On va prendre Diédoné, qui est à Inongo, et Maître Adria Kananga, 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à vous tous qui nous suivez à l'étranger également.
Au Capitan, mercredi à 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capitan Zioé, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons des Congolais ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Dieudonné, vous êtes à Inongo, bonjour et bienvenue.
Bonjour, chers collègues.
Voilà, alors j'ai donné deux questions que j'ai pu quand même poser à vos prédécesseurs. Aujourd'hui, est-ce la responsabilité des banquiers qui pêchent par l'incompétence publique, comme venait de le démontrer tout à l'heure l'ingénieur Mathieu et l'ingénieur Valérie, en disant que c'est par manque de présence. Mais avant de commencer, j'ai donné, je vous demanderai de baisser le volume de votre poste réflexion. Voilà, ou carrément vous vous éloignez voilà. Et éloignez-vous de votre radio.
Ok, merci.
Alors, j'ai dit tout à l'heure...
Bien sûr.
Voilà, vous avez la parole. Quel est votre commentaire?
Ok, je voulais d'abord parler précisément de la banque. Alors, la banque centrale a perdu sa mission. Alors, si je dis la banque centrale a perdu sa mission, c'est par rapport à quoi? Et c'est par rapport... Allô?
Allez-y, Dédoné. Il y a vos prédécesseurs qui ont été responsables. Dédoné.
La banque centrale a perdu sa mission.
En tout cas, la communication est de mauvaise qualité. On ne saura pas vous garder. Et vraiment, elle est de très mauvaise qualité depuis Inongo. Je compte les distances qui nous séparent. Donc, ça ne pouvait pas aller avec... des réseaux qui sont parfois perturbés. Dieudonné, merci. En tout cas, Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles Lumembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Quel est votre avis, Maître Adrien? Est-ce que, aujourd'hui, on évoque beaucoup plus la responsabilité des banquiers qui n'arrivent pas, au travers de leur gestion, de vouloir éviter ce genre d'incidents.
Oui, je pense que je suis d'accord avec cette analyse que le banquier ne parvient pas non seulement à éviter ça, mais aussi à tirer toutes les conséquences par rapport à ce qui se serait déjà passé avec certaines banques dans le passé. Mais dans tout ça, lorsque j'ai fait un peu de lire la décision prise par la Banque Centrale du Congo, bon, moi je me suis dit, quelque part c'est aussi contradictoire avec la banque, c'est vrai, elle est dans sa compétence régalienne, mais il faut aussi reconnaître que si la banque parvenait d'abord à écouter certaines personnes qui disaient que ça ne servait à rien de donner des agréments à certaines banques, à certaines agences, sans toutefois se rassurer de la gestion et aussi du confort.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Adrien qui nous a appelé du Kananga. Je crois qu'on va nous aider du côté de la réalisation, de pouvoir retrouver Maître Adrien. Bah alors, dans ces temps, nous prenons Joséphine qui est à Boston, qui nous a appelé de très loin d'ailleurs. Madame Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour Radio Okapi, hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Où est le monsieur, c'est qui encore qui est passé hier? Je le cherche pour lui poser des questions, hein, sur, maintenant, on peut parler du premier ministre. Parce que une banque, hein, l'administration d'une banque, c'est directement en contact avec le premier ministre. Le premier ministre doit connaître un bon fonctionnement d'une banque. Bon, la banque est sous tutelle de la BCC.
Ben est-ce que Madame Joséphine, hein? Madame Joséphine, est-ce que vous avez lu toutes les dispositions de la loi de 2002 qui, en fait, complétait également dans la continuité des dispositions de la Constitution qui donne la mission régalienne à la Banque centrale de pouvoir, gérer les banques commerciales?
Oui, le banque commerciale. Bon, ok. Je vais vous dire ceci. J'ai eu à parler avec quelqu'un de la BCC. Je crois que c'était en 2014. J'ai demandé, monsieur, c'est un directeur, c'est un chef. Où est-ce que vous sortez l'argent, hein, de la Banque du Congo? Où est-ce que vous sortez l'argent? il n'a pas pu me dire. Parce que tellement, c'est flou, je vous dis, c'est très flou. Mais, partout au monde, nous savons que c'est le PIB hein, d'un pays qui amène l'argent de la banque. Le PIB, c'est quoi? C'est la production des mines, comme au Congo, hein, c'est la production des mines, c'est la production du bois, la vente du bois et la production...
La production intérieure brute.
La production des minéraux et la vente des minéraux. Ce que moi, je vais vous dire, il y a ceci. En 2013, il y a eu une enquête hein, d'un groupe de gens qui sont venus de l'Afrique du Sud. Hein. Ils ont fait une enquête sur la production des minéraux et la vente des minéraux. L'argent part où? C'est le président Mbeki, Mbeki de l'Afrique du Sud qui a envoyé ce groupe-là. On a trouvé qu'il y avait 85% de minéraux produits qui n'étaient pas déclarés au gouvernement congolais, M. JR. Donc, quand il y a 85% des minéraux produits qui ne sont pas déclarés, mais est-ce qu'il y aura de l'argent dans la banque? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura l'argent de la banque. Ok, la banque dont on parle ici, c'est GRFI. La banque dont on a mis l'argent de la CENI, et puis on a doublé ce compte deux fois. Un compte qui avait 54 milliards, l'autre compte qui n'avait rien.
Donc si je comprends bien, Madame Joséphine, pour vous, le système bancaire de la RDC, comme l'a dit tout à l'heure, Omar et aussi de notre ami Alain Bolodjoie, risquaient de connaître un peu de difficultés parce que aujourd'hui ce sont les épargnants, mais le fait qu'il n'y aura plus confiance, ça risque vraiment d'avoir un impact négatif.
Laisse-moi terminer pour dire ceci. Vous savez, j'ai toujours dit, le Congo a besoin d'un audit. Un audit très très profond, monsieur JR. Un audit très très profond pour savoir qui fait quoi. On a eu l'indépendance politique au Congo, mais on n'a jamais eu l'indépendance économique. C'est pour cela que chaque gouvernement qui passe, ils font ce qu'ils veulent au détriment de la population. Au détriment de la population. La banque commerciale est là pourquoi? Pour terminer, la banque commerciale est là pourquoi? C'est pour octroyer de prêts. C'est pour octroyer des prêts à la population.
Mais quand
la population
paie son argent,
on octroie, le même argent est octroyé à la même population.
Oui, mais madame,
ça ne se fait pas comme ça.
Mais quand il y a gestion irrationnelle au niveau des banques, elles ne peuvent que connaître de faillite.
Mais l'argent part où? La faillite, quand il y a une faillite, l'argent est parti quelque part. Monsieur,
le crédit qu'on a employé,
l'argent de Congolais part où?
Il faut
appeler le Premier ministre. Il doit nous dire là où l'argent de Congolais part.
Ben, est-ce qu'il ne faudrait-il pas poser également la question aux gestionnaires de ces banquiers quand ils ont trois de crédits à des particuliers et ils ne font pas la balance comme il faut pour éviter ce genre de problèmes?
Moi, je parle du Premier ministre parce qu'on vient de sortir un prix là, Matata Tampogno, tout en l'octroyant.
Oui, c'est un débat.
On titre ça bon gestionnaire.
Oui, débat qu'on a hier. Mais aujourd'hui,
il ne peut pas contrôler les banques.
Oui, madame de Dépin, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que demain, on puisse épargner, protéger l'épargnant public?
Il faut arrêter avec la mafia. Le Congo est dirigé dans la mafia. Il faut arrêter la corruption. Quand il y a un montant donné, 140 millions de dollars pour petite et moyenne entreprise, les gens passent par la banque, mais on donne aux frères, aux cousins, aux oncles.
Voilà,
ils sont arrêtés avec ça.
Je crois qu'il y a des enquêtes.
Nous, on est venus dans le pays, on n'a fait rien.
Voilà, madame, nous retenons une chose pour vous, donc il va falloir qu'on puisse quand même redoubler les contrôles au niveau de la Banque Centrale pour veiller à ce qu'on ne puisse pas connaître ces genres de situations. Alors, confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Mote Djambo à tous les occupants de la radio de la paix.
Voilà, après avoir suivi les uns les autres, parce que nous tendons d'ailleurs vers la fin de cette émission, quelle est votre réaction?
À propos de l'épargne, moi je pense que pour sécuriser l'épargne, il y a juste la conscience. Je suis en train de voir comment est-ce que la conscience commence à se citer. La clé du problème, c'est que quand la politique va mal, tout va mal. La plus grande question ici, c'est l'impunité dans certains cas, l'impunité dans certains octrois de crédit. Et tant qu'il n'y a pas de suivi, quand le Congolais ne fait pas respecter le bien d'autrui, il est un peu difficile que les choses marchent. Moi, je pense qu'il y a un problème de culture de l'épargne, de culture des crédits, et qui, de soi, est en train de ruiner les épargnes. Et j'ai aussi, c'est comme si la Banque Centrale ne faisait pas son travail. Nous avons des très bonnes lois, mais apparemment, on ne suit pas.
Alors, est-ce que vous, la politique, disons, la décision prise de pouvoir redresser notamment la Mekeko, qui passe par la sous-tutelle administrative de la Banque Centrale, est-ce que ça peut donner des résultats au regard parfois de ce que nous avons connu par le passé avec la Banque Commerciale, la Banque Congolaise, la Banque Congolaise des Commerces Extérieurs, la Nouvelle Banque de Kinshasa? Voilà, donc il y a d'autres qui redoutent quand même que les mêmes faits produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on n'arrive pas réellement à résoudre ce genre de problème. Donc les redressements comme mécanisme pour sauver, ça n'est pas rien.
Oui, nous avons l'exemple de certaines banques que nous connaissons. Et comme vous l'avez déjà dit, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, je pense que c'est la politique qui est utilisée.
Oui, confiance, nous vous gardons en ligne. Voilà, confiance, nous poursuivons avec paroles aux auditeurs. Tout à l'heure, avant le flash, vous parliez. Et là, je vous relance en donnant deux préoccupations qui se sont dégagées au cours de ces échanges, notamment l'intervention tardive de la Banque Centrale pour sauver des banques commerciales qui annoncent parfois des faillites, et de l'autre côté, les compétences techniques de certains banquiers qui tombent facilement dans la gestion irrationnelle, l'octroi à l'excès des crédits et qui causent des torts plus tard à la banque. Quelle est votre réaction, confiance?
En fait, réagir contre peut-être l'intervention tardive, c'est tout à fait normal parce que comme nous l'avons toujours souhaité, nous l'avons toujours dit à la radio au CAPI, nous avons toujours des gens qui nous gèrent au lieu d'être des acteurs, mais ils sont des réacteurs. Donc on attend que les choses viennent pour qu'on commence à réagir. Donc il est malheureux que nous comprenions que le langage du fouet, c'est ce qui fait un peu mal. En principe, vous savez que la garantie des coopératives, la garantie de toutes les banques commerciales, c'est la Banque Centrale. Et moi, je pense que quelque part, il y a toujours un seuil minimal à respecter. C'est comme si, quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail. Parce que ces coopératives-là, pour être agréées, elles doivent être agréées par la Banque Centrale. Donc, il y a certaines conditions qui devaient en principe faire voir que les choses sont en train de tourner très mal s'il y avait effectivement un suivi. Il y a le mal dans ce pays, c'est ce manque de suivi. On laisse les choses s'empirer pour réagir après. Il y a aussi l'incompétence parce que certains octroient des crédits sont beaucoup plus familiaux ou avec des connaissances et ce qui tue un peu le business dans les banques. Les gens oublient souvent que la réussite d'une banque, la sécurité de l'épargne, c'est beaucoup plus la confiance. Quand les gens n'ont plus confiance en une banque, ils ne peuvent plus épargner. Vous pouvez changer tout ce que vous allez changer, mais confiance, c'est faisant, c'est fini, c'est parti.
Merci beaucoup, confiance, d'avoir appelé les Kinshasa. Jiresse, vous êtes dans le Bandundu. Vous êtes avec nous, bonjour Jiresse.
Accorder la parole. Hein. Alors, moi, je pense que ce qui vient de frapper Mekeko, et un signal d'alarme très fort que l'appareil financier congolais est sérieusement en panne. Et cette panne interpelle les uns des autres à des prises de, positions conséquentes. Alors, ceci peut appeler beaucoup les risques. Parmi les risques, donc, nous risquerons de voir chaque Congolais garder son argent sous son lit. C'est une thérapie pour un pays qui se veut émergent. Parce que l'émergence se repose essentiellement aussi sur le fonctionnement de l'appareil financier. Alors, l'État doit prendre cela très au sérieux si vraiment l'État tient à l'émergence de la RDC en 2030, comme l'ont annoncé les autorités. Alors, cela étant, on doit chercher des solutions très appropriées. C'est comme on dit, à chaque remède, plutôt à chaque maladie, une remède appropriée. Et pour les Congolais, et que tous les Congolais puissent vraiment faire très attention, comme on l'a toujours dit en Lingala, donc, va Congolais pour le Massola, Banque Boyebela. Et voilà un peu à quel niveau je situe mon intervention. C'est vraiment inquiétant pour le pays.
Merci beaucoup, Jirès. Alors, César, vous êtes à Boudia? César, vous êtes avec nous?
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de César. Le temps que cela puisse se rétablir, Isaac Bampouri, Ricky de Bukavu, dit ceci, sauf erreur de ma part, la Banque Centrale est la sentinelle des activités financières au pays. Elle doit toujours avoir un œil vigilant sur toutes les institutions financières et agir de manière appropriée, bien avant et non pas tardivement. Dès qu'une situation suspecte se présente dans telle banque ou telle COPEC en vue de protéger l'argent des épargnants. Mais curieusement, elle intervient toujours en retard quand la faillite est déjà effective et que, par conséquent, l'argent des milliers de clients est irrécupérable. Alors comment justifie-t-elle cette triste réalité après la BIAC? Grâce à Manzongo de Kinshasa, pour protéger l'épargne du public congolais, il y a trois propositions à savoir. Le gouvernement doit primordialement améliorer sa gestion au travers de ses stocks technostructures dont la Banque Centrale du Congo. Il faut notamment l'applicabilité des règles de protection de l'épargne, car cette applicabilité est trop essentielle. Enfin, la protection de l'épargne du public doit être un objectif général, d'intérêt général, reconnu par la puissance publique. Et c'est là sans oublier que la création d'une commission spéciale intervienne pour assurer avec vigilance accrue la protection de l'épargne. Patrick Binélé de Mboujimbaï. Notre pays connaît depuis longtemps des sérieux problèmes économiques et cela influence nos banques. Nos banquiers, voilà, donc nos banques, notons aussi que l'incompétence technique des banquiers qui ne font plus l'étude approfondie sur l'octroi et les dépôts des crédits. Voilà, donc il y a Alain Bolodois qui parlait tout à l'heure, cette situation des banques était prévisible. Alors, la centrale doit éviter de subir, elle doit plutôt avoir une gestion prévisionnelle. Elie Monedi, depuis Mbandaka, dit ceci, pour protéger l'épargne en RDC, hormis la restructuration du système bancaire, il faut d'abord stabiliser le climat politique, car d'autres privés profitent de l'impasse politique afin d'escroquer les paisibles citoyens, et en deuxième lieu la justice, car celle-ci est le levier d'émergence d'une nation. Alors nous venons de suivre tout à l'heure l'ingénieur Valérie qui évoquait beaucoup plus l'article 176 de la Constitution qui donne la mission à la Banque Centrale de veiller sur les systèmes bancaires. Alors pour éviter les dysfonctionnements que nous venons de constater, il va falloir que la Banque Centrale puisse redoubler les contrôles dans les systèmes pour que finalement on puisse mettre un peu de l'ordre, parce qu'on constate qu'il y a un laisser aller de ses côtés. Alors il y a César qui nous a rejoint, qui est en ligne. César. Bonjour César. Voilà, c'est plutôt Souma. Soumaïli.
Oui.
Voilà. Allô. Voilà, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution, telle que je vois, le mieux à faire pour que le peuple congolais puisse avoir l'épargne, c'est-à-dire, tout d'abord, il faut savoir l'épargne, c'est quoi? D'abord, l'épargne, c'est le reste d'argent qu'une population en a qui pourra être destinée à une consommation indifférée. Maintenant, comme au pays, les gens n'ont pas d'argent, difficile d'épargner. Alors, la banque, telle qu'elle est banque de banque,
la mère des banques, n'a qu'à pourvoir d'argent auprès de la population pour que la population ait l'argent et qu'elle puisse pouvoir épargner l'argent. C'est ce que moi je pouvais contribuer jusqu'à ce niveau-là. Parce que la population n'a pas de pouvoir. On n'embauche pas les gens n'ont pas de boulot. Difficile de pouvoir épargner.
Oui, Soumaïdi, quand les uns et les autres évoquent quand même la responsabilité des banquiers eux-mêmes, qui tombent facilement dans la gestion irrationnelle. Là. Ils octroient des crédits sur base des critères qui sont un petit peu irréalistes, quoi.
Oui, ça c'est aussi un élément très capital à ce niveau-là. C'est un élément très capital. Ce que mes protégés ont dit, c'est vrai, c'est juste.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez? Qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui pour qu'on arrive à ne plus tomber dans ce genre de situation? Que faudrait-il faire?
Qu'il y ait un suivi vraiment, qu'il y ait un suivi au niveau des gens qui gèrent des banques.
Merci.
Qu'il y ait un suivi parce que quand vous donnez une gestion sans suivi, ça débouche juste à de telles choses.
Merci beaucoup, Soumaïli. On va terminer avec vous, Patrick. Vous êtes à Lumbashi. Bonjour, Patrick.
Bonjour JR et bonjour à tous, c'est Patrick Mbouli à Lumbashi. Ce que moi je voudrais tout simplement dire ceci, je fais mienne l'intervention de la dame qui a appelé à Boston en disant que non, nous avons un sérieux problème de mafia qui commence au sommet de l'État et voilà aujourd'hui le peuple congolais qui est en train de subir toutes ces conséquences. Je pense que la responsabilité revient au gouvernement via la Banque Centrale du Congo qui doit redoubler les efforts pour mettre de l'ordre dans ce secteur parce que ça ne va pas. Voilà un peu ce que je voudrais dire et que ça puisse interpeller tous les Congolais pour ne pas tomber dans l'éternel commencement que le Congo connaît sur tous les plans économiques, politiques, tout ça.
Donc si je comprends bien, il faudrait qu'on redouble un peu d'efforts et tout en tenant compte de la loi de 2002 qui donne quand même ses prérogatives, cette mission régalienne à la Banque Centrale.
Oui. Donc, c'est ça.
Voilà, merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé. Le temps pour nous de voir un peu de côté de notre de réseaux sociaux, où se tient également les débats autour de la Banque Centrale du Congo, qui vient de placer, le 25 octobre 2016, sous tutelle administrative, la mutuelle d'épargne et des crédits du Congo Mekreko. Il faut noter que depuis plusieurs mois, Mekreko fait face à un problème de trésorerie qui s'est traduit par l'absence de liquidités dans ses agences des Kinshasa et des Goma. Alors, c'est une deuxième banque qui connaît pareille difficulté après Biak, dans l'espace de quelques mois seulement. Alors, que faut-il faire finalement pour protéger l'épargne du public congolais? Vous avez été nombreux à participer à ces débats et aussi à contribuer dans la mesure du possible. Nous vous en remercions. Et nous disons également merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette édition. Julie Pézabongonda a géré le standard et J.R. Lugembo a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Julien Niamoni. Donc on se retrouve demain dans un autre numéro.